France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Et en ce deuxième jour de conflit en Ukraine, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions au directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour Bruno Tertret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en studio avec nous sur France Inter. Comment interprétez-vous cette offensive russe sur Kiev, la capitale ukrainienne? Quel sens lui donner?
Elle est tout à fait conforme à ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine. Il a été clair, il a dit qu'il voulait changer le régime, j'utilise son terme, qui aujourd'hui, soi-disant, oppresserait les Ukrainiens. Et c'est un régime nazi, il l'a dit. Mmh. Hein. Donc il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il va essayer de renverser M. Zelensky et de placer, j'imagine, une sorte de fantoche, de régime qu'il contrôlerait. Je suis pas sûr que ça se passe très bien, mais en tout cas, le but, il est clair.
Alors, on va détailler ça. Le but de guerre, c'est de renverser le régime. Ça n'est pas de prendre ou d'occuper Kiev.
Occuper peut-être provisoirement. Oui. Prendre, tout dépend ce qu'on entend par prendre. Je dirais que le contrôle des bâtiments gouvernementaux, dans tout ce type de guerre, c'est toujours une priorité. Mais en tout cas, ce que M. Poutine ne peut pas faire, c'est occuper l'ensemble de l'Ukraine.
Pourquoi dites-vous, je ne suis pas sûr que ça se passe très bien?
Parce que je me demande si M. Poutine ne sous-estime pas la capacité et la volonté de résistance des Ukrainiens. Vous savez, c'est un pays qui a développé une conscience nationale à l'époque moderne extrêmement forte, du fait même des actions russes. En 2014, après l'Euromaïdan, on a vu
manifestations pro-européennes sur la place Maïdan.
Oui, tout à fait. On a vu une opinion ukrainienne qui se détachait de plus en plus de la Russie et qui voulait se rapprocher de plus en plus de l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas du tout prêts à se laisser faire. Il est à craindre qu'il y ait dans Kiev, effectivement, des batailles de rue, des actes de résistance, j'imagine des actes d'héroïsme aussi. Et face à cela, nous verrons si M. Poutine, comme il le prétend, ne s'adressera qu'à des objectifs militaires, je cite encore ses propres mots, ou s'il considérera que toute personne qui s'attaque aux forces armées russes est un ou une nazie. Là encore, je reprends ces termes. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça pourra se passer très mal pour tout le monde.
On revient sur Kiev dans un instant, mais je voudrais laisser la parole aux auditeurs et Pierre, notamment, qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir pourquoi, depuis que 30 ans que l'Ukraine est indépendante, c'est peut-être une force armée conséquente. Elle pourrait mobiliser 5-6 millions d'hommes, et ils ont 50 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, donc 5 millions de soldats bien entraînés. Probablement 3000 tanks, il pourrait avoir 3000 tanks, donc 10 divisions blindées probablement. Les avions par centaines ou par milliers. Et comment ça se fait qu'en 30 ans, ils ne sont pas bien organisés pour bien pouvoir se défendre?
Bruno Tertret, merci.
Je voudrais savoir quel est l'état des rapports de défense actuellement entre les Russes et les Ukrainiens.
Merci Pierre pour cette question. Mais commençons par le rapport de force.
L'héritage de l'Union soviétique, c'est une armée effectivement ukrainienne en 1991 extrêmement nombreuse, mais avec des armements, des équipements qui se sont dégradés au fil du temps. Bien sûr, l'Ukraine a racheté les équipements, l'Occident a aidé à moderniser l'armée ukrainienne, mais elle n'est pas aussi puissante que ce qu'elle était. Elle peut être à la fois nombreuse et moins puissante, en tout cas beaucoup moins puissante que l'armée russe, qui elle a bénéficié depuis une quinzaine d'années d'un énorme influx d'argent, de budget pour les forces armées, et la transformation des forces armées russes depuis une quinzaine d'années est tout à fait spectaculaire. Et là, c'est sur le plan qualitatif autant que quantitatif que le décalage se fait. Cela dit, la défense du territoire, les milices populaires, tout ça, ça existe en Ukraine. La mobilisation générale a été décrétée. Il y aura énormément de forces de milices, de forces de citoyens qui vont créer des poches de résistance tout à fait significatives, au-delà donc de ce que va faire l'armée régulière.
Revenons sur Kiev à ce propos. On a vu donc des chars ce matin, on voit des chars ce matin aux abords de la ville, voire certains blindés qui ont déjà pénétré dans la ville. L'idée du point de vue russe est d'aller le plus vite possible justement pour éviter, côté ukrainien, une guerre de résistance et pouvoir faire tomber rapidement le régime ukrainien.
Bien évidemment, mais je dirais que l'aspect strictement militaire le plus visible des choses, celui qu'on voit depuis ce matin sur la télévision, n'est pas le seul à prendre en compte, parce que nous ne sommes plus à l'époque de Stalingrad, nous sommes à l'époque de la guerre moderne, dans laquelle le cyber, l'arme cyber est extrêmement importante, et puis il y a aussi les tactiques tout à fait traditionnelles des Russes, et qui sont aussi des tactiques de l'époque moderne, qui sont l'infiltration. Il y a des membres du FSB dans une grande partie de l'administration ukrainienne, et donc il y a certainement des cellules dormantes qui vont être activées. Ça, c'est un invariant de la guerre, et c'est une tactique que les Russes maîtrisent extrêmement bien. Donc, quoi qu'il se passe, s'il y a tentative de changer le régime de Kiev, ça ne se fera pas simplement avec des chars qui occupent les rues.
Et classique aussi, ces saboteurs dont plusieurs témoins nous ont parlé ce matin, ça c'est quoi ces unités de sabotage?
Vous savez, dans tous les coups d'État dirigés de l'étranger, il y a des saboteurs, ils sont rarement en uniforme. Encore une fois, ce sont peut-être d'ailleurs des gens qui ont la nationalité ukrainienne, mais qui sont en fait des espions russes. Voilà, là encore, on est dans une tactique tout à fait classique. Nous allons voir effectivement assez vite si ça marche ou pas. Je crains pour Monsieur Poutine, enfin je l'espère d'ailleurs, que ça ne soit pas aussi simple que ce qu'il a annoncé. Il y a aussi une question sur le sort personnel de Monsieur Zelensky. Est-ce qu'il va vouloir rester à Kiev quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il va vouloir ce qui serait mieux pour sa capacité à commander, mais qui serait un signe aussi dramatique du point de vue de l'opinion et de l'extérieur, transférer une partie de son gouvernement hors de Kiev? Ça, on le saura aussi très vite.
Une opération d'exfiltration, c'est possible? Jean-Yves Le Drian nous disait...
Je ne veux pas rentrer dans ces détails, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, s'il y avait quoi que ce soit qui se préparerait, je ne le saurais pas, oui. et si je le savais, je le ne dirais pas, donc je souhaite pas rentrer dans ces spéculations.
Marc, au Standard de France Inter, nous vous écoutons Marc.
Bonjour Bruno Dufic, bonjour Monsieur Attertrait, bonjour à tous. Il me semble que la réaction de l'Union européenne est absolument insuffisante. Les seules sanctions économiques, c'est comme si l'Europe avait un portefeuille à la place d'une âme. Et je ne parle pas du blabla de Monsieur Macron. En conséquence, ce qu'on peut déjà appeler l'abandon de l'Ukraine par l'Europe n'est-il pas un signe donné non seulement à Poutine pour continuer, mais également à Xi Jinping pour prendre Taïwan, voire davantage?
Oui, alors, il y a
Bruno
deux questions.
Merci Marc.
Merci, il y a deux questions qui sont posées. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, mais que voulons-nous faire? J'ai envie de renvoyer la question d'une certaine manière. Serions-nous prêts, si nous étions, vous et moi, aux commandes, à envoyer les forces françaises se battre contre la Russie aujourd'hui, en Ukraine? Donc, il est normal.
On se souvient qu'il y a eu une intervention de l'OTAN au Kosovo, qui n'était pas membre de l'OTAN.
Eh bien, je vais vous rappeler juste.
Pourquoi pas l'Ukraine?
Alors, je vais vous dire justement. Au Kosovo, en 1999, il se passe quelque chose de très intéressant. Les Russes, qui n'étaient pas favorables à cette opération, même s'ils ne s'étaient pas opposés physiquement, à un moment, veulent montrer par un coup de force qu'ils sont là. Ils vont reprendre l'aéroport de Pristina, la capitale du Kosovo. Et là, les forces de l'OTAN reçoivent un ordre qui reprenait l'aéroport de Pristina. Et le commandant britannique des forces de l'OTAN sur place, je cite de mémoire, parce que cet épisode était tout à fait significatif, « Sir, I'm not going to risk World War III for you. Mon général, je ne vais pas prendre le risque d'une troisième guerre mondiale pour vous. » Les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. Il ne s'agit pas de se confronter directement à des forces russes chauffées à blanc par un président russe dont la rationalité commence à nous échapper un petit peu. Alors, je reviens sur l'économie. Mais oui, mais c'est important l'économie, le pouvoir de M. Poutine. Il est avant tout basé sur des fortunes, sur des oligarques. La puissance de la Russie, elle est basée aussi sur une capacité à mobiliser des ressources, à vendre des choses à l'étranger. Enfin, les sanctions économiques, je crois qu'il ne faut pas les négliger. Alors, est-ce qu'on aurait dû aller encore plus loin?
Par exemple, le réseau SWIFT.
Oui, le fameux réseau interbancaire SWIFT qui est basé à Bruxelles. Donc, ça doit être une décision commune.
N'a-t-on pas coupé l'accès russe parce qu'on en a nous-mêmes besoin?
Non,
nous occidentaux.
Non, je pense qu'on peut couper l'accès russe sans en souffrir trop, parce que les sanctions, ça peut nous faire mal aussi. Il faut faire attention.
Bien sûr.
Mais je crois qu'il faut garder aussi quelques munitions en réserve. Hein. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est SWIFT qui va vraiment pénaliser la Russie alors que elle a dédollarisé sa modèle? Elle a commencé à se retirer une partie des circuits, circuits traditionnels. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a encore quelque chose sous la semelle, comme on dit en football. Il y a d'autres sanctions possibles. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout de même, les Américains et les Européens ont très vite réagi et avec davantage d'unité que ce à quoi on pouvait s'attendre.
La partie de la question sur Taïwan, Bruno.
Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. On se demande toujours, nous les analystes, les gouvernements, si ce qu'il se passe sur un théâtre a une influence sur la manière dont d'autres gouvernements, d'autres États, d'autres néo-impérialistes comme Xi Jinping perçoivent justement notre capacité et notre volonté à défendre nos intérêts. Il y a des débats sans fin sur le sujet. Il est difficile de croire, je vous donne ma perception, il est difficile de croire que ce que font les Occidentaux n'est pas perçu, là pour le coup, par la Chine, d'une manière ou d'une autre, comme soit un petit peu faible, soit au contraire relativement fort. Alors, c'est pas parce que on ne se défendrait pas pour l'Ukraine que l'Amérique ne se battrait pas pour Taïwan, par exemple. Mais en tout cas, chaque conflit majeur est effectivement un test de volonté. Je ne doute pas que ça soit regardé très attentivement pour la Chine, qui, à mon avis d'ailleurs, s'estimera gagnante dans tous les cas. Mais je crois qu'il faut toujours en tirer des conclusions avec une grande prudence.
Je reviens juste sur les raisons d'une non-intervention militaire et ce que vous nous disiez à propos du Kosovo. Au fond, si je résume, l'enjeu géopolitique n'est pas assez important et le risque d'embrasement est trop important. C'est pour cela que les Occidentaux n'interviendront pas militairement.
Ils n'interviendront pas directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soutien direct qui va être massif d'ailleurs dans les jours qui viennent. Un soutien en termes de renseignement, de matériel de guerre.
Il y aura on peut livrer en ce moment à l'Ukraine du matériel de guerre, on peut passer?
Oui, on peut passer. Ça commence à devenir difficile. Il faut trouver les bons canaux. Il faut savoir exactement ce dont les Ukrainiens ont besoin en ce moment. Ça n'est pas si simple, mais on a déjà commencé à le faire depuis plusieurs semaines. En tout cas, individuellement, plusieurs pays européens ont commencé à le faire. Ça va s'accélérer. Je pense que tout le monde va y participer. Mais je ne crois vraiment pas qu'à part quelques volontaires, il y aura peut-être des volontaires européens pour aller se battre, mais ils ne représenteront pas leur pays. Donc c'est vrai, on n'ira pas se battre officiellement pour l'Ukraine. Ça ne me choque pas parce que lorsque vous êtes président ou premier ministre d'un grand pays européen, dire j'envoie l'armée se battre contre les forces russes au risque d'un conflit nucléaire, ça ne serait pas une décision à prendre à la légère.
Donc ça veut dire que le sommet de l'OTAN dont on parlera tout à l'heure avec Jean Lebrun, on en attend quoi? Éventuellement un renforcement des moyens des pays limitrophes autour de la zone de conflit.
Oui, et ça c'est important parce que ça veut dire d'abord rassurer ces pays sur quoi qu'il arrive, vous serez protégés. C'est extrêmement important. C'est aussi un signal à la Russie. Cela veut dire attention à ne pas nous provoquer sur les frontières. Maîtrisez vos troupes. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'incidents malheureux à une frontière parce que là, pour le coup, il y a une ligne rouge absolue pour nous. C'est celle de notre territoire collectif, celui des pays européens, membres de l'OTAN.
Pascal au standard. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais revenir sur Tchernobyl. J'ai appris que les Russes avaient pris le contrôle de Tchernobyl. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est quel intérêt ça présente. Parce que Tchernobyl, c'est plus une centrale. Les réacteurs ont tous été arrêtés. C'est une charge pour gérer les déchets et le reste de l'accident et les restes de combustible des réacteurs qui ont été arrêtés. Mais à quoi ça peut leur servir à eux? Ou alors, est-ce que c'est pour faire une espèce de chantage en disant on fait tout sauter et on envoie toutes les poussières radioactives qui sont encore sur place dans toute l'Europe en choisissant bien la météo pour savoir où elles vont?
Merci Pascal. Et j'ajoute, Bruno Tertrais, que vous parliez tout à l'heure de la rationalité toute relative de Vladimir Poutine. Donc effectivement, le mot de Tchernobyl fiche un peu la trouille pour dire les choses.
Je comprends que ça puisse faire peur. Attention, la rationalité de M. Poutine, c'est une rationalité différente de la nôtre, mais qui est quand même une forme de rationalité. On a du mal à la comprendre, mais elle n'est pas illogique de son point de vue. Alors, je voudrais rassurer l'auditeur. Tchernobyl, c'est parce que c'est sur la route.
Oui.
C'est sur le chemin, tout simplement. Quand vous descendez depuis la Biélorussie ou...
À quoi ça tient la guerre?
C'est une zone effectivement très particulière. Il n'y a aucun intérêt pour les Russes à la contrôler. Simplement, c'est littéralement sur la route de Kiev. S'il y a un petit risque, mais là encore, je voudrais pas être trop alarmiste, s'il y a un petit risque, c'est que si jamais il y a 4 ou 5 centrales nucléaires ukrainiennes en activité dans des zones qui pourraient être des zones de combat, il faudrait vraiment des bombardements très significatifs pour qu'il y ait un risque de dégagement de matière. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, et dire à vos auditeurs, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a strictement aucun risque sérieux de catastrophe radiologique de type Tchernobyl pendant ce conflit. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais c'est ce que disent en tout cas les experts que j'ai consultés sur le sujet.
On a commencé cet entretien, Bruno Tertrais, en parlant de Kiev, objectif renverser le régime. Y a-t-il des objectifs territoriaux au-delà du Donbass pour Vladimir Poutine?
Ah ben la guerre s'étend déjà bien au-delà du Donbass. J'allais dire que la question maintenant, c'est plutôt savoir quelles sont les limites
de conquérir.
De conquête. Alors, Il est possible, alors, il y a encore beaucoup de scénarios, il pourrait, après une opération dite de changement de régime à Kiev, il pourrait se replier sur le Donbass, mais le Donbass en entier, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les forces pro-russes ne contrôlaient qu'une partie de Donbass.
Un tiers, dit-on à peu près.
Voilà, ouais. Donc les 70% restants, ça pourrait être ceci, ça pourrait être la jonction quasiment jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire jusqu'à Odessa, au-delà de Mariupol, ouais. Jusqu'à Odessa, on descend vers le sud-ouest, ça pourrait être ceci, mais c'est un objectif compliqué parce que ça voudrait dire contrôler une bande de terrain entre le territoire ukrainien et la mer Noire, ça serait pas facile. Ou alors, comme souvent, M. Poutine sera opportuniste, pragmatique, il s'arrêtera où il pourra s'arrêter.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'être venu nous apporter vos analyses en studio. Vous qui êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique.